Charlie et les kangourous. Tadam ! Découvrez une amitié extraordinaire entre une petite fille...
Je m'appelle Charlie.
...et des kangourous.
Il a faim, ce petit kangourou.
On va s'occuper de toi, mon grand.
Cet été, faites un bond au cinéma...
On vient vous aider.
...pour vivre la plus grande aventure familiale des vacances.
Quand ils seront prêts, on les ramènera ici. C'est là qu'ils sont chez eux.
Inspiré d'une incroyable histoire vraie, Charlie et les kangourous.
Les kangourous, pour nous, c'est magique.
Actuellement au cinéma.
Cet épisode de L'Heure du Monde est soutenu par Audi Business. Aujourd'hui, les critères environnementaux prennent une place croissante dans les décisions de flotte des entreprises. L'Audi Q6 e-tron répond à cet enjeu. Première et unique de son segment à obtenir le label EcoScore avec 70% d'abattement sur l'avantage en nature et 120€ d'économie mensuelle. Tous les détails sur audi.fr. Audi Business est le programme sur mesure dédié aux professionnels. Au 18 juin 2026, l'Audi Q6 e-tron Performance est le premier SUV du segment B à obtenir le label EcoScore. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Au moment où mon arrière-grand-père meurt, en 1938, la route de Franco vers la victoire se dessine. À la fin de l'année, des centaines de milliers de soldats républicains, mais aussi et surtout de civils, se dirigent vers la frontière française. Ils espèrent trouver refuge en France, mais c'est une nouvelle épreuve qui les attend.
Les fils de fer barbelés dressés pour laisser mourir de faim, de froid, de maladie, frappés, humiliés.
Tiens, saloperie d'Espagnol de merde.
Des régiments entiers, des hommes blessés, des femmes, des enfants, des vieillards fuient à pied les bombardements et les troupes de Franco qui avancent inexorablement vers le nord. De village en village, ils finissent par atteindre les Pyrénées. Là, dans le froid, ils restent bloqués à la frontière. Les jours passent. Le 27 janvier 1939, les femmes et les enfants sont autorisés à entrer en France. Le 30 janvier, c'est au tour des soldats blessés. Le 5 février, tout ce qu'il reste de l'armée républicaine défaite.
Une seule phrase résume cet exode.
Ils sortaient d'un enfer pour rentrer dans un autre.
En quelques jours, une immense foule de réfugiés entre en France. Cet exode, c'est ce qu'on a appelé la retirada.
Dans les cas, nous avons eu peur, nous avons eu froid et nous avons eu faim.
Ils faisaient un trou dans le sable et ils se mettaient la couverture par-dessus, comme ils pouvaient.
Et combien on en a trouvé de morts.
J'avais déjà entendu parler de cet exil, mais j'ignorais à quel point il avait été massif. Un demi-million de réfugiés débarquent en quelques semaines. C'est énorme. Une bonne partie d'entre eux s'installeront pour de bon. Alors si vous connaissez des personnes d'origine espagnole en France, il y a de grandes chances pour que leur famille soit passée par là. Moi, ce n'est pas le cas. Toute ma famille est restée en Espagne malgré la dictature. Mais je n'ai pas dû chercher bien loin pour trouver une personne concernée.
Salut, bienvenue dans le studio.
Merci.
C'est quand même assez fou, ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble et en fait on n'avait jamais parlé du fait qu'on était toutes les deux d'origine espagnole, on n'en avait jamais discuté. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet que tu m'as dit que en fait, toi aussi.
Il s'agit de ma collègue Amandine, que vous aussi vous connaissez. Oui, oui, Amandine Robillard, celle qui réalise la majorité des épisodes de L'Heure du Monde, qui en a composé le générique et qui réalise évidemment cette série. Quand je lui ai parlé de mon projet, elle a été tout de suite emballée. Parce que comme moi, elle partage le même sentiment, celui d'une mémoire enfouie qui nous manque.
Est-ce que tu peux nous re-raconter l'histoire de ta famille ?
La famille de ma grand-mère a fui l'Espagne en 1938, donc ils venaient du sud de l'Espagne. Ils ont traversé la frontière début 1939 et toute la famille est passée par les camps. Sauf qu'arrivées en France, les femmes ont été séparées des hommes. On ne sait pas où sont allées les femmes, on suppose qu'elles sont allées dans le Massif central. Et les hommes de la famille se sont retrouvés au camp d'Argelès, dans le sud de la France.
Et ça, ce que tu me racontes, c'est des choses dont vous parliez en famille ?
Non, on n'en parlait pas beaucoup en famille. Là, c'est vraiment à l'occasion de cette série que je me suis vraiment penchée sur le sujet avec ma grand-mère. On a fait beaucoup de recherches ensemble. Et c'est là qu'elle m'a dit que son oncle avait écrit ses souvenirs dans un carnet en espagnol. Et c'est finalement le seul héritage qu'on a de cette mémoire de l'exil dans la famille.
El recuerdo de los tres o cuatro días que pasamos en la frontera.
Je me souviens des trois ou quatre jours que nous avons passés à la frontière. Imaginez ce que ça doit être. Des centaines et des centaines de personnes qui attendent l'ouverture de la frontière. Toutes alignées le long de la route.
Franco nos bombardeó tres o cuatro veces.
Pendant ce temps, Franco nous a bombardés à trois ou quatre reprises. Pour empirer les choses, les derniers jours que nous avons passés à la frontière furent un véritable déluge.
Porque cayó más agua que muchas veces en seis meses.
Je me souviens de cette pluie qui n'a pas cessé un instant, tombant avec une telle force que l'on aurait dit six mois d'averse en quelques jours.
Que muchas veces en seis meses.
Il n'y avait aucun abri, rien pour se protéger. De jour comme de nuit.
Sin ningún techo para cubrirnos y agua día y noche.
Ça te dit quelque chose? 500 000 réfugiés cherchent un abri en France.
Quand le gouvernement français ouvre finalement la frontière, rien n'est prêt pour accueillir les réfugiés espagnols. Ils sont dispersés dans des camps faits de briques et de brocs dans le sud de la France. Comme le grand-oncle d'Amandine, dont on vient d'entendre les mémoires. Des centaines de milliers d'Espagnols vivront pendant des mois dans des conditions de vie terribles. J'ai proposé à Amandine qu'on aille voir ce qu'il reste de ces camps.
La personne sacrée de l'Espagne est en danger.
Vamos contra el fascismo!
Los hombres más heroicos del mundo!
Le mot de passe, arrive à l'Espagne!
J'ai enquêté sur la mort de mon arrière-grand-père républicain espagnol et la mémoire des victimes de la dictature franquiste. Je m'appelle Garance Munoz et vous écoutez Espagne, l'écho du silence, une série historique et intime réalisée par Amandine Robillard. Troisième épisode, l'exil sans retour.
Y en el campo de Argelès-sur-Mer, nos fuimos a enterrar pa' no comer.
Cette chanson a été composée dans les camps. Elle s'appelle Allez, allez.
Nos tratan como apenados y nos gritan los soldados. Allez, allez.
Allez, allez, c'est ce qu'ont dit les soldats français à cette foule de réfugiés espagnols. Allez, allez, dépêchez-vous. Allez, allez, vite. Allez, sur la plage.
Allez, allez.
Des vieux vieux d'Argelès se souviennent des trois jours et deux nuits où on entendait le pas incessant de la foule des réfugiés qui passait pour aller vers la plage.
Après des jours de marche épuisante, les Espagnols sont éparpillés dans des camps près de la frontière espagnole et sur des plages le long de la côte jusqu'à Perpignan. Et le plus grand de ces camps ouverts sur une plage se trouve à Argelès-sur-Mer. On estime que plus de 160 000 personnes y sont passées. Au loin, tout au bout de la plage, l'immensité des montagnes bascule dans l'écume. Et derrière ?
Derrière, c'est l'Espagne perdue, laissée entre les griffes des franquistes.
Olga Arcos est la référente du mémorial du camp d'Argelès-sur-Mer. Elle donne l'impression de connaître chaque grain de sable foulé par les Espagnols en 1939. Aujourd'hui, la plage où nous nous trouvons avec Amandine ressemble à un paradis pour vacanciers. De l'exil espagnol, il ne reste qu'un rocher, dressé en hommage aux victimes à l'entrée de ce qui était le camp, et une plaque de commémoration à l'extrémité nord, pour en symboliser la fin.
Du rocher à la plaque nord, si on fait toute l'étendue du camp, on met combien de temps à pied ?
Est-ce qu'on marche d'un bon pas ? 10 minutes, un quart d'heure ?
Oui, donc c'est grand.
Oui, oui.
Elle-même fille d'exilés républicains, Olga a une frange brune qui virevolte à chacun de ses gestes. Depuis son petit musée, elle s'attelle à collecter et étudier des témoignages d'exil espagnol.
Il y a des mots qui reviennent tout le temps. La faim, le froid, la tristesse, le désespoir, le pouls, la gale. l'accueil qui a été fait ici, ces gens qui se disaient la France, patrie des Lumières, la France, la liberté, l'égalité, la fraternité, qui étaient des valeurs portées par la Seconde République espagnole, n'est-ce pas ? Et ils arrivent ici, et ils se retrouvent jetés sur une plage déserte par un froid terrible. Et pour eux, ça a été ce qu'appelait Albert Camus la douleur interminable de l'exil.
Ça va ? Comment tu te sens ?
C'est pas facile de mettre des mots là-dessus. Hein. Et le fait de savoir que des personnes de ma famille ont vécu ça, enfin ça, c'est hyper étrange de se retrouver sur le lieu et de s'imaginer, je sais pas, ton arrière-grand-père, ou me mettre à la place de ma grand-mère et d'imaginer son père là, enfoui dans le sable. C'est hyper émouvant de s'imaginer ça et de me dire que le père de ma grand-mère a vécu ça, son oncle a vécu ça, sa mère, sa grand-mère ont vécu ça. Je vais appeler ma mamie, je pense.
Regarde, j'y suis.
Sur la plage ?
Je suis sur la plage, ouais.
Ah oui ?
C'est intense quand même, hein ?
Oui, tu m'étonnes. Ça ravive des souvenirs.
C'est là qu'on voit l'importance des lieux de mémoire. Ils viennent combler un manque quand le passé a été enfoui. Pour Amandine, sa grand-mère et des milliers d'autres descendants.
J'ai l'impression que depuis qu'on a commencé à travailler toutes les deux sur cette série, que ma relation avec ma grand-mère a clairement changé, qu'elle est en train d'évoluer. Ça nous a énormément rapprochés. Déjà qu'on s'appelait beaucoup avant, mais là, depuis qu'on parle de son histoire familiale et de la mienne, du coup, on s'appelle beaucoup plus. Ça donne vraiment l'impression d'appartenir à cette histoire.
Après des mois sur la plage, les exilés sont envoyés dans de vrais camps, comme ici à Rivesaltes, près de Perpignan. Il y a des bâtiments, des latrines, des conditions d'hygiène censées être plus humaines.
C'est une immense plaine au milieu des montagnes. C'est couvert d'herbes, de bruyères, de petits cailloux, ocre, et plein de baraquements en béton, qui sont tous à moitié détruits, en ruines, avec des numéros dessus. Là, par exemple, je suis devant le numéro 34. Et entre les baraquements, il y a des arbres qui ont poussé, surtout des oliviers.
Oui, alors, vous pouvez vous asseoir sur le banc, mais il est mouillé. Après, c'est comme vous voulez.
Une classe de collégiens est en train de visiter le camp.
Est-ce que c'est bon pour tout le monde ?
On est 13 élèves,
oui,
je crois.
C'est bon, c'est parfait.
Je me glisse entre les élèves pour profiter de la visite.
Alors bonjour à tous et bienvenue au mémorial du camp de Rivesaltes. Voilà, pour nous c'est très important de recevoir des groupes comme vous parce que l'histoire de ce lieu elle est très particulière.
Emmitouflée dans sa doudoune noire, Cindy Crespo est médiatrice à Rivesaltes depuis 8 ans. Et aujourd'hui, elle accompagne une dizaine d'élèves d'un collège voisin qui grelotte en la suivant dans les allées du camp.
Alors ici nous sommes sur un seul îlot. Tout ça, vous le multipliez par 10 pour avoir la totalité du camp de Rivesaltes. Donc le camp de Rivesaltes, il était immense, d'accord ?
À l'origine, le camp de Rivesaltes était un camp d'entraînement militaire.
Les militaires, ils se sont installés à Rivesaltes pour une raison particulière. Ici, ils voulaient faire ce qu'on appelle un camp d'acclimatation. Alors comme son nom l'indique, c'est s'entraîner dans des conditions climatiques extrêmes. C'est quoi les conditions climatiques extrêmes à Rivesaltes ? Normalement, vous les connaissez. Hein ?
Le froid.
Le froid, oui. Oui, oui, oui. Le vent, bien sûr, regardez. C'est parce que le vent ici, il est extrêmement puissant. Le vent, généralement, c'est 70-90 km/h. Quasiment tous les jours, parce que c'est un jour sur trois dans l'année. Et en été, du coup. Alors,
il fait chaud.
Et oui, regardez bien autour de nous, là. C'est une plaine, ici. Hein. Il n'y a absolument rien pour nous protéger. Et en été, il fait une chaleur horrible.
Ce que je comprends là, c'est que ça n'a jamais été un camp pensé pour accueillir des gens, mais un endroit choisi pour ces conditions extrêmes.
La France va utiliser une loi du 12 novembre 1938 qui autorise l'internement de ce qu'on appelle les indésirables. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il y a une loi qui a été mise en place pour dire qu'il y a des populations sur le territoire français qu'on peut enfermer parce qu'on les considère comme étant indésirables en France. Et ce terme indésirable, il signifie quoi finalement ?
Ils les veulent pas.
C'est des populations que les Français ne veulent pas. Sauf que les Espagnols, il faut bien comprendre qu'ils n'ont commis ni crime ni délit. Ils ont été enfermés parce qu'ils présentaient un potentiel danger pour la France.
Donc les Espagnols ne sont pas considérés comme des réfugiés partageant les idéaux démocratiques de la France, mais comme des indésirables, des délinquants qu'il faut maintenir à l'écart. Alors pourquoi font-ils peur au gouvernement français ? Nous avons posé la question à François Lemartinel, un autre médiateur du camp.
Ce qu'on va surtout voir arriver dans la tête du gouvernement français, ça va être un mélange de rouges et d'anarchistes qui vont amener le chaos si jamais on les laisse se diffuser dans la société française. Certains défendent même l'idée que puisqu'ils n'ont pas réussi à faire leur révolution en Espagne, ils vont la faire en France. On le sait, avec les interviews qu'on a pu faire, les recherches qu'on a pu faire, est parfaitement faux. Le désir de la plupart, de l'écrasante majorité des combattants est encore à ce moment-là de retourner en Espagne pour faire la guerre.
Le mémorial retrace la vie des réfugiés passés par les murs du camp. On peut y entendre des témoignages. Et une voix m'a particulièrement touchée. Celle de Josefa de Bedoya Rodriguez. Une petite dame à la peau parsemée de sillons et aux yeux brillants. Elle est née à Bilbao le 17 décembre 1928. Son père, colonel de l'armée républicaine, est fusillé. Et le 5 février 1939, elle fuit avec sa mère en France. Elle passe plus de 4 ans et demi dans les camps d'Argelès-sur-Mer, de Rivesaltes et de Gurs, un peu plus loin dans les terres.
Le souvenir le plus terrible pour moi, j'ai vu un jour un homme tué à coups de pied par des soldats parce qu'il s'était sauvé du camp. Et bien sûr, tout le monde s'est mis à crier et les femmes ont voulu aller lui porter secours. Parce qu'il faut bien dire qu'au camp de concentration, quand quelque chose s'est révolté, c'était les femmes. Parce qu'elles n'avaient pas très peur. Les hommes, ils savaient ce que c'était la guerre. On a essayé de sortir et c'est la garde mobile qui est venue avec des chevaux. Et autant vous n'avez pas peur d'un homme avec un revolver, devant les chevaux, vous reculez. Et ce souvenir m'a poursuivi beaucoup d'années. Mais vous savez, au départ, on pensait que ça allait pas être loin, qu'on allait quand même arriver à gagner un jour. Comme quoi, l'espoir était là. Parce que même dans notre misère, on trouvait le temps de chanter puis de danser. C'est ça le caractère espagnol, de toute façon.
Peu de temps après, la Seconde Guerre mondiale éclate. La France perd face à l'Allemagne nazie et est occupée.
Dans la matinée du 14 juin 1940, les Parisiens atterrés voyaient s'élever à la plus glorieuse hampe de leur ville le drapeau à croix gammée. La Wehrmacht occupait Paris.
Hitler demande à Franco s'il veut récupérer ses ressortissants. Mais Franco lui répond: il n'y a pas d'Espagnols en dehors de l'Espagne. Comprendre, ce ne sont plus des citoyens espagnols, fais-en ce que tu veux. Alors, avec la collaboration du régime de Vichy, plus de 7000 combattants républicains seront déportés au camp de concentration de Mauthausen en Autriche à partir de 1940. Et à la fin de la guerre, en mai 1945, 2000 seulement en ressortent vivants. Qu'en est-il des autres Espagnols, celles et ceux qui échappent à la déportation ? Le médiateur de Rivesaltes, François Lemartinel, me répond.
Leurs destins sont très très variés. C'est ça qui est très intéressant avec les Espagnols, c'est qu'ils vont avoir des très très grandes disparités dans ce qui va se passer ensuite. Certains retournent en Espagne. Dans le meilleur des cas, il leur arrive rien. Dans le pire des cas, Franco, qui avait promis une amnistie générale pour ceux qui reviendraient, les fait littéralement fusiller sur le quai des gares quand ils descendent, voire carrément, alors c'est un truc un peu vicieux aussi, on va prendre deux frères qui ont exactement le même parcours, il y en a un qu'on va condamner à mort et l'autre qu'on va libérer. Et donc forcément, celui qui est libéré, tout le monde se demande ce qu'il a pu faire pour ne pas être condamné. Alors qu'il n'a rien fait, c'est assez terrifiant comme méthodologie.
Et on comprend bien pourquoi une bonne partie des Espagnols restent en France.
Puis il y a la France, effectivement, avec des gens qui vont rester internés dans les camps, d'autres qui vont sortir pour travailler. Certains d'entre eux vont s'engager dans l'armée française, la Légion étrangère, avec pour but de continuer le combat contre le fascisme. Ils savent qui est l'ennemi, donc si l'Allemagne est en face, eh bien l'Allemagne a soutenu Franco, donc eux, par effet de répercussion, ils vont continuer le combat. Et c'est un nombre important, ou en tout cas avec grande importance. Puisque, par exemple, le noyau de la France libre, ça va être des Espagnols. Par exemple, il y a une unité qu'on appelle la Nueve, et c'est la première à rentrer dans Paris, au moment de la libération. Donc, quand vous regardez les photos, d'ailleurs, c'est assez marrant, parce que vous avez les noms des chars, c'est Teruel, Guernica, etc. Et il y a un rapport militaire qui dit que c'est une unité dans laquelle tout le monde parle espagnol jusqu'au lieutenant.
Mais le rôle des républicains a pendant longtemps été oublié dans l'histoire de la libération de Paris. Et on n'entend jamais parler espagnol dans les archives de ce jour de célébration.
Le défilé commence, survolé par les escadrilles de notre aviation militaire. Le peuple de Paris, vibrant d'enthousiasme, est venu nombreux acclamer l'armée de la République.
À Rivesaltes, le camp a été utilisé pour les exilés espagnols à partir de 1939. Mais il a aussi été utilisé par le régime de Vichy pour enfermer des milliers de juifs, avant de les déporter vers Auschwitz. Et à la fin de la guerre, la logique d'enfermer les indésirables a continué pendant des années. Nomades, soldats allemands, harkis d'Algérie, militaires guinéens et vietnamiens restés dans l'armée française au moment de la décolonisation.
Rivesaltes n'est pas un camp, c'est un empilement de structures de rétention qui se déploie dans le temps. Donc on a de 1940 à 2007 ici, régulièrement un lieu qui resserre de structures d'internement. Et c'est très très étonnant de voir cette espèce de bégaiement en fait, avec un point commun, c'est que de manière quasi systématique, ce camp déploie une extrême violence parce que l'endroit est naturellement violent. On parle de 60 000 personnes qui vont défiler dans ce camp à minima, aucune d'entre elles n'a été jugée.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, près de 200 000 réfugiés espagnols s'installent durablement en France. C'est le cas de la famille d'Amandine. En Espagne, les républicains et leurs enfants, celles et ceux qui n'ont pas les moyens de s'exiler, subissent la répression et la dictature de Franco. C'est le cas de ma famille. Prochain épisode, le dernier dictateur d'Europe.
Charlie et les kangourous. Ta-da! Découvrez une amitié extraordinaire entre une petite fille.
Je m'appelle Charlie.
Et des kangourous.
Il a faim, ce petit kangourou.
On va s'occuper de toi, mon grand.
Cet été, faites un bond au cinéma.
On vient vous aider.
Pour vivre la plus grande aventure familiale des vacances.
Quand ils seront prêts, on les ramènera ici. C'est là qu'ils sont chez eux.
Inspiré d'une incroyable histoire vraie. Charlie et les kangourous.
Les kangourous, pour nous, c'est magique.
Actuellement au cinéma.
On s'était promis quoi cet été ?
Moins de travail.
Et ?
Moins de stress.
Et ?
Moins d'administratif.
Alors pourquoi t'es sur ton ordinateur ?
Parce que je m'inscris sur Collecto pour la facturation électronique.
Ça prend combien de temps ?
C'est fait.
Inscrivez-vous à l'annuaire de l'État pour la facturation électronique en moins d'une minute avec Collecto. Centralisez devis, factures, paiements et trésorerie sur une plateforme connectée à votre expert comptable. Collecto, la seule promesse de l'été facile à tenir. Pour plus d'informations, rendez-vous sur collecto.fr.
Dépasser les limites pour réaliser l'impossible. Voici ce à quoi les ingénieurs Audi travaillent chaque jour. L'Audi Q6 Citroën 100% électrique est le premier SUV de sa catégorie labellisé EcoScore. Une prouesse technique qui offre aux professionnels de nombreux avantages fiscaux et toujours plus de valeur pour leur entreprise. Détails sur Audi.fr. Pensez à covoiturer.